Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Alors, on est bien content de vous retrouver cette semaine pour la 100e et dernière émission. On est quatre dans le studio aujourd'hui, Axel, Pierrick, Fred et Jean-Baptiste, que vous connaissez, qui est venu nous voir il y a quelques émissions de cela.
Bonjour à tous.
Et oui, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors, comme je vous le disais, c'est la 100e.
Temps, on l'a fait.
Ouais, ouais. On l'a fait. Et dernière émission de l'Étoile Polaire.
Quand même, 100.
Ouais, on a tenu jusqu'à 100. Ouais. Bah, bon, on a perdu en route. On fait une bizarre émie qui nous écoute de loin.
Une bizarre émie, une bise à toutes les personnes qui sont passées par l'émission aussi.
Ouais, bien sûr.
Et
ça fait quand même plus de...
Presque 6 ans.
Ouais, et plus de 100 heures cumulées. Ça fait quoi, 100 heures? Ça fait 4 jours sans dormir. Ah, si tu veux toutes les écouter, d'affilée.
C'est pas si long.
Ça va.
Une quantité de connaissances.
4 jours, on les a. Ouais. On les trouve.
Bref, donc on va pas vous redonner le mail de l'émission. C'est pas la peine. Par contre, on va vous dire que...
vous pouvez toutes les réécouter,
voilà,
justement.
Vous pouvez toutes les réécouter.
Si vous avez 4 jours devant vous.
Et que, en fait, jusqu'à présent, nous étions dans les émissions thématiques sur le site de RDIWA, rdwa.fr, et que prochainement, nous allons donc basculer dans les archives. Si vous cherchez l'Étoile Polaire, il faudra aller dans les archives pour nous retrouver. Et là, il y aura toujours toutes les émissions avec toutes les photos aussi du ciel prises par Axel et puis par Rémi. Et si ça vous intéresse de plonger dans cette aventure-là, vous pouvez. En tout cas, on vous accueille ce dimanche pour un débat sur la science. C'est une émission spéciale aujourd'hui, il n'y aura pas les chroniques habituelles. Et c'est aussi pour ça qu'on est content de retrouver Jean-Baptiste. Hein. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission où il était venu, que Jean-Baptiste est astrophysicien à l'Observatoire des Baronnies Provençales. Donc il a quand même une bonne connaissance et de l'astrophysique et de la science en général. Donc on va discuter de science. Alors, c'est un vaste sujet. C'est un très vaste sujet. Donc on va quand même partir un petit peu sur une sorte de plan. Et le point de départ, je vais citer un grand penseur de notre temps, Ediwa de surcroît,
oh là là.
Axel. Axel, qui dans une émission précédente a dit « Il est faux de dire que la science est un dogme. » Alors voilà, et moi j'avais envie d'ouvrir l'émission sur cette phrase, et d'ouvrir l'émission en fait sur « Ok, on parle de science, comment ça fonctionne la science ?» Comment est-ce qu'on dit « Eh bien ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est peut-être vrai, ça c'est… » voilà. Comment on fait. Et donc, j'avais envie de commencer par vous parler de ce qu'on appelle les revues à comité de lecture.
Ouais.
Donc, les revues à comité de lecture, c'est la façon actuelle qu'a la science de fonctionner, c'est-à-dire que les chercheurs publient des articles dans des revues, mais à comité de lecture, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de payer pour publier. Il faut que votre article soit vérifié par quelqu'un.
Valider.
Qui valide la démarche.
Ouais.
Avant d'être publié.
Avant de pouvoir être publié et donc ensuite lu par d'autres chercheurs qui pourront soit s'inspirer, qui pourront évaluer les idées, qui pourront aussi se nourrir de votre travail.
Oui.
Là, c'est aussi ça l'idée.
Si je ne me trompe pas, et si je me trompe Jean-Baptiste, n'hésite pas à me le dire, les relecteurs... Il valide la méthodologie du papier, de l'expérience, on va dire. Pas le résultat en soi.
Oui, ils sont censés avoir un œil extérieur, indépendant, on va dire, c'est-à-dire apartisan, sans objectif. Et ils doivent se prononcer sur, comme tu dis, la méthodologie. Et la façon dont l'article suit des standards universels de...
Oui, d'argumentation, de raisonnement.
Oui, vérifier qu'il n'y ait pas un biais statistique, un chiffre qui devient un autre la page d'après, ou des choses comme ça. Par contre, ils ne vont pas à chaque fois refaire l'expérience et pour arriver à un résultat et dire « Ah ben non, nous on n'est pas arrivé sur le même résultat ».
Ça, ils ne peuvent pas, c'est pas possible.
Alors, je crois que ça peut, dans certains cas, se faire.
C'est, alors ici, là, ce qui est difficile, c'est qu'on parle de tous les domaines scientifiques et que, en tout cas, moi, je ne vais pas tous les connaître.
Oui.
En astro, l'idée, c'est qu'on, qu'on soit capable de reproduire les résultats.
Mais de toute façon, dans tous les cas, oui, c'est censé être reproductible. Donc, mais ce n'est pas reproduit avant de validation systématiquement.
Non.
Par exemple, en astro, si on veut se concentrer sur l'astro, que tu connais forcément mieux... Si tu dis j'ai observé tant d'heures telle galaxie et j'ai observé ça et j'ai compris ça, j'en déduis ça, voilà. Celui qui va valider, il va pas passer autant de temps à regarder la galaxie avec le même télescope, tout ça. Par contre, il va dire ah bah oui, mais avec tel télescope, tu peux pas voir ça, ou des choses comme ça, plus sur le fonctionnement, vraiment, sur le déroulé.
Oui, mais par contre, il aura accès, si on parle d'astronomie ou d'astrophysique, à les données, ou en tout cas toutes les méthodologies qu'on pu amener à cette donnée, ce qui est différent à d'autres domaines, je pense à plein d'autres domaines où il y a des retombées financières bien plus importantes. Si je pense à la médecine, tout va être sous couvert de brevets et de...
Et
donc ça va être beaucoup plus difficile de valider l'intégralité de la démarche, même si éthiquement elle doit l'être.
Alors, c'est clair qu'on fait un débat sur la science. La science, c'est vaste. C'est évident que quand on parle d'astrophysique ou quand on parle de médecine, comme tu dis, les méthodologies ne sont pas les mêmes, on n'étudie pas les mêmes choses. Enfin, c'est complètement différent. Donc, on ne va pas... nous, quand on va parler de science ici...
On va surtout parler de la première.
On est...
L'astrophysique. On dit ça, l'astronomie.
L'astronomie. Donc nous, on parle plutôt d'astrophysique. Donc ça veut dire, en gros, on parle de physique et de maths. Enfin, en tout cas, on utilise les mathématiques énormément en physique, ça c'est sûr. Donc on va plutôt parler de ces disciplines-là, même si les choses qu'on dit sont en fait généralisables. Les comités, les revues à comité de lecture, ça existe dans tous les domaines. C'est pas spécifique du tout à l'astronomie ou à la physique ou aux maths.
Non.
Donc on va quand même essayer de garder un discours un peu général, mais on est quand même sur ce biais qu'on est dans l'étoile polaire et que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'astrophysique.
C'est ce qu'on connaît mieux.
Ouais. Alors, pour parler un peu d'histoire de ces revues à comité de lecture, en fait, tout ça, ça a démarré au XVIIe siècle, donc 1600 et quelques. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu l'émission, là, récemment, j'ai fait une série sur justement différents scientifiques du XVIIe siècle, que ce soit Giordano Bruno ou plus récemment Kepler. Et tous ces gens, en fait, ont vraiment permis de basculer d'un monde, on a dit, géocentrique, où la Terre est au centre, immobile, et tout l'univers tourne autour, à un modèle héliocentrique, où c'est le Soleil qui est au centre du système solaire, et puis voilà, on met un petit peu la Terre à sa place, et de là, on va aux galaxies, on va à tout ça, mais ça prend des centaines d'années, quoi. Donc, en tout cas, cette idée-là, elle est née au XVIIe siècle, un peu en même temps, en réalité, que l'idée de communauté scientifique. C'est-à-dire d'avoir suffisamment de gens qui
communiquent entre eux.
A priori, plutôt des gens de catégorie sociale privilégiée. On est quand même là-dedans. Mais qui commencent chacun dans leur coin à accumuler des connaissances, à faire des recherches. Et puis, certains qui cherchent un peu sur les mêmes choses. On est quand même au début de tout ça. Donc forcément, on cherche un peu sur les mêmes choses, tout le monde. Et donc, on compare, on discute, etc. Et c'est ce début de ce qu'on va appeler dans la suite la communauté scientifique. Et c'est quand même le XVIIe siècle. Et donc, par exemple, alors, la première tentative qu'il y a eu de... Alors, à l'époque, c'était pas encore les revues à comité de lecture, mais c'était un peu des tentatives de vulgarisation ou de diffusion des sciences. C'est en 1634, en France, avec, je vous donne le titre quand même, que j'ai trouvé amusant, une revue qui s'appelle « Recueil général des questions traitées, est-ce conférence du bureau d'adresse sur toutes sortes de matières ?» Donc ça, c'était le titre de la revue. Mais en réalité, il y a deux revues qui...
L'avantage du français, du coup, à l'époque, de langue... La langue scientifique est-elle française ?
C'est vrai, c'est vrai.
La langue diplomatique et tout.
Et en fait, les deux premières revues à comité de lecture, donc ce fonctionnement, en fait, qui consiste à dire, je fais une recherche dans mon coin, et en fait, je vous la propose à vous, les autres scientifiques, qui cherchez peut-être pas sur le même sujet, mais en tout cas qui avaient des connaissances. Et je vous dis, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes convaincu par mes conclusions? Est-ce que par mes pistes, par mes hypothèses? Est-ce que ça vous intéresse? Comment on discute, etc. Ce fonctionnement-là qui est crucial, fondamental, vraiment dans le fonctionnement de la science. Il a démarré donc dans les années 1660, avec d'une part en France le Journal des Savants. Et d'autre part, en Angleterre, le Philosophical Transactions, qui plus tard est devenu le bulletin officiel de la Royal Society, dont d'ailleurs Newton était secrétaire à la fin du XVIIe siècle. Voilà, on a déjà parlé de l'impact énorme de Newton sur le développement des sciences. C'est le premier, hein, tout simplement, à avoir en fait mathématisé le monde. Et pour ça, il a posé une brique sur laquelle on s'appuie toujours.
Oui, c'est ça, parce que on parlait hors antenne que la science se pratique en anglais aujourd'hui. Là, tu viens de dire qu'elle se pratique en français. Pour moi, la première langue de toutes les sciences, c'est quand même les maths, là où tout le monde se retrouve et que oui. Dans toute discipline, elle est utilisée.
Mais ça date de Newton.
Ouais.
Avant, non.
Ouais.
Puisqu'ils utilisaient. Enfin, pas les mathématiques comme ça. Donc, voilà en tout cas pour cette petite introduction sur cette histoire. Alors, des revues, ben, y en a toujours. Hein, elles existent, y en a énormément, des revues. Elles sont consacrées en général à des disciplines. Une qui est très connue, c'est Nature, une revue anglaise, enfin américaine, que certains peuvent peut-être avoir déjà croisé. Mais il y en a plein. C'est pas dans le domaine de l'astrophysique Jean-Baptiste, y a quoi comme revue actuellement?
Oui, bah y en a plusieurs. Mais en même temps pas tant que ça, puisque c'est un domaine tout petit. Donc il y en a quelques-unes par continent. Aux États-Unis, il y aurait Astrophysical Journal. Tu as cité Nature, il y a Science aussi, qui est un peu le pendant. Voilà. En Europe, on a aussi des journaux comme MNRAS. Peut-être la suite de ce que tu disais là de Newton, The Monthly Notice of Royal Astronomy Society. Donc un peu la suite. Voilà. Et en Europe, France, il y a AEA, Astronomie et Astrophysique. Voilà. Il y a quelques grands journaux comme ça par continent. Il n'y en a pas des dizaines.
Oui, puis il n'y a pas besoin, comme tu dis, c'est aussi des communautés de scientifiques un peu réduites. Voilà.
Et c'est publié c'est une fois par mois, par an, par.
Alors, c'est même voilà. Pas forcément publié en papier aujourd'hui, ça alimente leur site internet.
Ah voilà. Oui, d'accord.
Donc ouais. On reste encore sur l'idée d'une publication par mois, mensuelle,
d'accord.
Basée sur la publication papier.
Ouais.
Mais comme dit Axel, hein, de plus en plus, on est voilà, au fil de l'eau, on va dire.
Oui, t'as un article qui peut sortir n'importe quel jour. Un peu.
Alors, c'est qui produit le plus de papier en ce moment?
Alors en ce moment, je pense que c'est la communauté asiatique lidée par la Chine qui a vu son nombre de publications exploser ces 10 dernières années. Voilà, je ne saurais pas dire des chiffres, mais voilà. Mais,
la Chine est...
L'Europe est bien derrière les publications chinoises et américaines.
D'accord. En cosmologie du coup?
En astrophysique. Là je parle d'astrophysique. Ouais.
Hein, ah oui, en général.
Tous les domaines.
Ouais. D'accord.
Alors, ce qui est intéressant dans ces revues à un comité de lecture, c'est un peu la démarche, en fait, la démarche de la science. Hein. Pour reprendre cette idée, la science n'est pas un dogme. Si j'avais envie un peu de le répéter, c'est aussi parce que, quelque part, cette idée-là, elle est attaquée actuellement. Et qu'il y a certaines personnes qui considèrent, en fait, que la science, c'est comme une opinion.
Croire en la science.
Ouais. Voilà, alors il faut être très clair en fait. Ouais. La réponse c'est non, la science c'est pas une opinion. C'est en fait des expériences, des choses qui sont vérifiables, qui
sont démonstrations.
Qu'on peut démontrer, que d'autres peuvent retrouver. C'est pas moi je pense que, non. En fait le scientifique, normalement, il a une ouverture d'esprit qui dit voilà, moi j'ai l'hypothèse que... Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ben, je vais faire des expériences pour essayer de voir. Et puis, ouais, c'est toujours pareil aussi en science, c'est que quand vous cherchez à répondre à une question, vous trouvez une demi-réponse et 10 nouvelles questions. C'est quand même ça aussi le truc, quoi. Il n'y a pas de fin. Plus la connaissance, elle avance, plus elle ouvre de pistes, plus... c'est infini, le domaine de la recherche. Mais ce qui est vraiment important et qui est attaqué de nos jours, c'est cette démarche. Donc, je vais donner quand même aussi, on peut donner des exemples, en fait. C'est-à-dire, si effectivement la science était un dogme, alors, si on veut parler de dogme, on a déjà parlé des gens qui ont fini au bûcher pour s'être opposés au dogme de l'Église, mais au dogme de l'Église, pas celui de la science. Même si eux, à l'époque, se prétendaient détenteurs de la connaissance. Parce qu'il y a aussi ce débat entre connaissance et science, bon, c'est encore autre chose. Mais... en fait,
ça va te revenir.
ça va me.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit très récemment, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais on a tous en tête ce qui s'est passé il y a 5 ans dans le monde entier, et des gens qui défendaient des scientifiques, on va dire, en disant oui, mais c'est comme Galilée à l'époque, personne ne le croyait. Et on lui est tombé dessus, alors que ce n'était pas des scientifiques qui tombaient sur Galilée, c'était
l'Église.
C'était une institution dogmatique. Ouais.
Donc en fait, on peut prendre deux exemples qui ont vraiment marqué l'histoire. Par exemple, Einstein qui arrive au début du 20e siècle, ouais. En fait, avec sa relativité générale. Même au départ, je pense que les gens, enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûr, il y en a plein qui comprenaient pas ce qu'il disait, en fait. En réalité, il s'est heurté aussi à un truc, bon, c'est quand même assez complexe, mathématiquement, c'est super pointu. Il y a des gens qui n'ont pas compris, mais très vite, en fait, en l'espace de 2-3 ans, tout le monde a dit OK. A reconnu, en fait, la valeur de son travail. Donc, en fait, et c'était le cas aussi avec Edwin Hubble, tu avais fait une émission là-dessus.
Ça devait être dans celle-ci où j'ai dit que la science n'était pas un dogme.
Je crois.
Il y avait deux écoles. Est-ce qu'il y a d'autres galaxies ou est-ce qu'il n'y en a qu'une? Que la question était ouverte. Il y en avait qui tenaient vraiment à ce qu'il n'y ait qu'une galaxie, l'intuition que c'était comme ça et qu'ils le défendaient comme ça. Aucune des deux écoles avait pu apporter vraiment de preuves allant dans leur sens, jusqu'à ce que Hubble, lui, y arrive en disant moi, je viens de comprendre, de calculer qu'il y a plein de galaxies et en plus des très loin. Et devant les chiffres, on va dire, devant les faits, même les plus virulents à son encontre ont dit oui, t'as raison.
Même les plus sceptiques se sont inclinés parce que ils avaient cette ouverture et ce respect de la démarche, de dire OK, j'écoute, je regarde tes arguments. Et effectivement, là, oui, c'est vrai. Et voilà. Donc, en fait, il y a une capacité.
Aussi.
Voilà. Ouais. C'est ce que j'observe aussi. Voilà. Donc, il y a une capacité, en fait, des scientifiques et de la communauté scientifique à se remettre en question, à se renouveler. Après, bon, là, on parle de gens, de cas un peu exceptionnels. Hein, depuis Einstein, en fait. Depuis Einstein et puis depuis la mécanique quantique. Donc, tout ça, c'est le début du XXe siècle. Personne n'est arrivé avec une théorie qui élargisse autant le cadre que ce qui s'est fait au début du 20e. Là, quelque part, la physique, elle attend un petit peu la suite. Et la suite, ce serait la grande unification entre la relativité générale et la mécanique quantique qui, pour l'instant, sont incompatibles. Et c'est pas juste laquelle a raison, en fait. C'est pas ça. C'est juste que les deux approches sont totalement différentes. L'une pour décrire l'infiniment grand, l'autre pour décrire l'infiniment petit. En tout cas, ça, l'avenir dira un peu où mènera cette recherche. Elle est plus qu'intéressante. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Mais en tout cas, quand ça arrive, eh bien, on voit bien que la communauté scientifique, contrairement à l'Église de l'époque, se modifie sa vision et accepte que c'était pas comme ça maintenant, d'accord. Donc ça, quelque part, c'est un peu ce début, voilà. Dans cette émission, sur la science, on va faire toute une première partie un petit peu sur les réussites de la science aussi, quelque part sur ce qu'elle est capable de faire, sur ses qualités, et puis dans une deuxième partie, on verra aussi un petit peu ses limites. En tout cas, ce fonctionnement là il est quelque part le plus intellectuellement honnête. Et ça, il faut le reconnaître. Maintenant, on va, j'ai envie de faire une distinction aussi entre la science et la technologie. Là, il y a vraiment quand même deux choses qui sont différentes. Il est clair que la technologie découle de la science. La plus, enfin, dans l'immense majorité des cas, et surtout dans le cas de la modernité. Parce que c'est sûr que, par exemple, le jour où ils ont inventé la roue, qui est clairement une invention technique, technologique majeure, ça n'a pas forcément été théorisé avant. C'est peut-être quelque chose qui est venu empiriquement. L'idée de construire ça, sans forcément faire une grande théorie derrière. Mais en tout cas, dans la science actuelle, il est très clair que toute la technologie, elle découle en fait de la physique. De la physique, peut-être de la chimie aussi, et donc des mathématiques. Mais en fait, l'ingénierie, au sens large, découle de la physique. Et d'ailleurs, la formation des ingénieurs, c'est Mathsup, Mathsp, puis une école d'ingénieurs. Donc, c'est pas pour rien, quoi. Donc, cette technologie, elle nous pose tout un tas de problèmes, même si elle prétend en résoudre aussi certains. Bon, on n'a pas envie de faire ce débat-là ici. Moi, ce que j'avais...
Et je pense qu'on peut dire que ça marche aussi un peu dans l'autre sens, que la science dépend de l'avancée des technologies.
Alors,
parce que,
oui.
Galilée découvre les lunes de Jupiter parce qu'on a inventé des lunettes pour voir plus loin.
Oui, oui. Les instruments de mesure.
Aujourd'hui, c'est des microscopes, n'importe quoi. Enfin,
oui. Il y a un aller-retour, effectivement, entre la technologie et la science, au sens où la technologie va permettre de développer des instruments de mesure de plus en plus perfectionnés, qui donc vont pouvoir permettre de tester les théories de façon de plus en plus précise et donc de voir là où elles se collent ou pas aux observations.
Mmh. Tu parlais la dernière fois des ondes gravitationnelles, tu vois, les lasers, LIDAR et tout ça. Les Virgo.
Virgo, oui.
Ouais.
LIGO, Virgo.
Ouais, hautement technologique.
Carrément.
Et ça sert à la science.
Ouais, complètement.
Ouais, mais ça a été théorisé avant.
Oui.
La technique est venue après, pour le coup.
Mais tu vas nous en parler un petit peu, justement.
Et puis c'est d'autres champs aussi, en fait. La physique des lasers, l'ingénierie des matériaux, enfin tout ça, et qui vont servir l'astrophysique pour les ondes gravitationnelles. C'est pas l'astrophysique qui a fait inventer les lasers. Ouais. Et c'est pas pour l'astrophysique qu'on les a inventés. Par contre, on s'est dit, ah bah tiens, il y a cette technologie qui a été inventée
qui pourrait servir,
par de la science qui est de la physique des particules et des matières, des matériaux, et qui va servir. Enfin, voilà, il y a vraiment des communications dans les deux sens.
Et de la même façon aussi avec le spatial. Pierre-Éric, tu as fait beaucoup de chroniques là-dessus. Clairement, toutes les sondes qu'on a envoyées, les satellites qui sont autour de la Terre, etc., nous ont apporté énormément de connaissances, mesures sur le système solaire, sur plein de choses qui ont fait avancer la science. Mm-hmm. Donc il y a effectivement un aller-retour. Ouais. Mais c'est différent quand même. Quand même bien voir que la science, c'est pas la technologie, c'est une application de la science. C'est pas la science en elle-même. La science, c'est une connaissance quelque part. Quand vous étudiez la gravitation, c'est pas matériel.
C'est quelque chose
qui décrit un petit peu le fonctionnement quelque part de l'univers autour de nous. Mais qui n'est pas réellement palpable.
Non.
Alors qu'un micro, un laser, ça, c'est des objets qui sont vraiment physiques et technologiques, quoi. Bon, en tout cas, voilà. Donc, je vais bientôt te laisser la parole, Pierrick, puisque tu as préparé une espèce de petit survol du développement des sciences depuis la préhistoire. Moi, j'avais envie, avant de te laisser la parole, de pointer un peu deux choses du doigt concernant l'astrophysique. C'est l'astrologie. C'est-à-dire qu'avant l'astronomie, enfin, c'est pas avant l'astronomie, avant l'astrophysique, toute l'astronomie était liée à l'astrologie. En fait, on observait le ciel, la position des planètes. Bon, c'était d'abord un calendrier. Le calendrier, pour des moissons, pour tout ce qu'on veut, en tout cas le calendrier, de voir, telle étoile se lève à telle période, etc. On voit les constellations arriver, donc on est dans telle saison, et donc c'est le moment de semer, c'est le moment de faire qui que quoi. Mais très vite aussi, et ça c'est aussi lié à la religion, parce que quand même on vient de sociétés qui, depuis des millénaires, la religion était complètement imbriqué dans la vie quotidienne en réalité.
C'était lié, ouais.
C'est plus, enfin, ça là, ça faisait partie. C'était juste une facette de la culture quelque part, la religion pendant très longtemps. C'est encore le cas d'ailleurs dans plein de pays du monde actuellement, quoi. Mais cette astrologie, elle avait aussi un but prédictif pour les rois. Souvent, les rois avaient des astrologues.
C'est devenu un peu l'inverse, quoi. C'était le calendrier. On observait le calendrier et on se disait, ah bah tiens, c'est tel jour, telle planète est là, mais c'est synonyme. Donc je vais faire ça. Et puis on a essayé d'imaginer la réciproque, de se dire, ah bah tiens, le roi est mort subitement sur son trône. Qu'est-ce qui se passait dans le ciel à ce moment-là? Ah bah il y avait une comète. Ah bah peut-être qu'à la prochaine comète, le roi va mourir sur son trône.
Ça peut marcher dans les deux sens. Après, au-delà de ça, si tu regardes par exemple dans l'Ancien Testament, il y a une phrase qui dit, les étoiles sont des symboles dans le ciel qui sont là pour que vous les regardiez. En fait, il y a cette croyance depuis super longtemps en fait dans les civilisations que de toute façon le ciel c'est une sorte de message crypté que nous envoie Dieu. Et l'astrologie, elle se nourrit aussi de cette croyance-là, de cet aller-retour entre la Terre et le ciel. En tout cas, l'astrologie, elle avait pour conséquence d'étudier l'astronomie, c'est-à-dire la position des planètes. Donc il y a tout un tas d'éphémérides, en fait, de choses vraiment d'astrométrie, enfin peut-être pas, mais d'astronomie assez, des positions des choses qui étaient liées à l'astrologie. Mais dans un but prédictif, aussi pour les dirigeants, c'était l'idée de est-ce que mon empire va durer? Est-ce qu'il va y avoir une guerre? Est-ce que de prédire un peu les choses pour essayer de prendre un peu le meilleur parti de l'histoire. Donc en tout cas, il y a un rôle très important qui ensuite s'est séparé au XVIIe siècle en fait.
Mais c'est pas encore clair. Hein. Souvent, les gens ils disent tu fais de l'astrologie.
Mais c'est tout le temps.
De l'astronomie. Enfin,
c'est tout le temps.
Alors, bonjour, je fais de l'astronomie. Ah oui, alors c'est de quel signe?
Ah oui.
Ça m'est arrivé pas longtemps. Attends, je sais plus. Ah oui, Capricorne. Je me dis que tu es astronome et tu connais pas ton signe. Mais c'est bizarre. Je dis, mais oui, non, je vais t'expliquer.
Ouais, c'est pas encore clair pour tout le monde.
Voilà. Donc
l'astrologie est tellement induite, quoi. Enfin, tellement présente, presque au quotidien, même dans notre langage, on dit très naturellement tout s'est aligné, tu vois, pour dire que les planètes sont alignées, ou le mot désastre, ça vient de l'astrologie, c'est un astre en moins, un astre pas normal, c'est un désastre. Enfin, voilà, y a plein d'étymologies comme ça qui sont directement liées à l'astrologie, aux croyances de l'astrologie.
C'est des croyances qui ont eu cours pendant tellement longtemps.
Ouais, ouais.
Qu'elles ont laissé une marque forcément dans notre culture.
Voilà.
Et il y a un autre point que j'avais envie de souligner, c'est l'alchimie. Parce qu'on a parlé de Newton, justement. Newton, fondateur de la physique moderne, hein, quelque part, puisque le premier a trouvé la formule de la gravitation, a mathématisé le monde, ce qui n'était pas du tout évident, de dire est-ce qu'on peut réellement trouver des lois mathématiques qui relient les différentes grandeurs, comme les masses, etc., les vitesses, les positions. Est-ce qu'on peut trouver des liens mathématiques entre tout ça? Et bien lui, oui, il le fait. Et il faut savoir que Newton, c'était un des plus grands alchimistes de son époque. Donc vraiment, il était renommé pour ça. Donc si on le dit, c'est des choses qui ne sont pas forcément très mises en avant, puisque c'est a priori, l'alchimie, c'est considéré, c'est au même titre que l'astrologie, c'est considéré comme une espèce de croyance fumeuse. Mais en réalité, les alchimistes, l'alchimie, ça a des millénaires comme pratique. Et l'alchimie, ça va bien au-delà de juste transformer le plomb en or. C'est toute une relation ésotérique, en fait, aux éléments chimiques, à la pureté, à la transformation. Enfin, c'est tout un délire. Et en fait, Newton était énormément là-dedans. Et si on regarde d'ailleurs la notion de force, c'est un peu Maître Yoda. Hein. C'est lui qui a inventé cette idée de force. C'est une interaction qui est invisible, qui se passe à distance. Alors ok, il la mathématise, donc ça sauve le truc, on en parle encore. Mais l'intuition de poser la physique en termes de force,
l'expérience
c'est
de
pas
penser,
du
elle
tout
est...
évident.
Ouais, elle est balèze. Ouais. Ouais,
c'est pas du tout évident de se mettre à penser comme ça alors que personne l'a jamais fait. Donc lui, quelque part, il a canalisé ses intuitions ou ses façons de penser de trucs qui sont pas du tout rationnels, en fait, hein, pour, au contraire, développer une rationalité à un degré supérieur. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et l'alchimie, c'est clairement l'ancêtre de la chimie, puisque clairement, c'est les premières personnes, les alchimistes, à avoir mélangé différentes substances, du soufre, du machin, les avoir fait brûler, les avoir et observer les changements d'état, les transitions de phase, etc. Enfin, tous les débuts de la chimie, en réalité, sont dus à l'alchimie. Voilà, pour cette petite introduction. Pierrick, je te laisse nous faire une espèce de panel. Alors forcément, ça peut pas être exhaustif, et puis, mais en tout cas, ce que t'as un petit peu relevé dans l'histoire du développement des sciences.
Et oui, je vais essayer de pas me perdre, mais en tout cas, je voulais faire un petit panel la science, parce que la science c'est tellement vaste. Je savais pas trop par quoi commencer. En tout cas, j'aime toujours bien démarrer par l'histoire. Ça me paraît toujours important de comprendre comment les humains et leur cerveau ont évolué de génération en génération pour comprendre ce qui se passe et les faire changer. Donc si je parle des sciences en général, je vais attaquer avec l'espèce humaine. Hein. Et donc, y a beaucoup, la science a commencé beaucoup par des découvertes empiriques. Hein. La technique, comme tu parlais, est venue au tout début. Quoi. Donc avec des outils préhistoriques, des pierres. Tout ça pour améliorer le quotidien, des propulseurs, des os, le feu. Ça, je vais aller très vite hein, dans toutes les techniques, les découvertes. Mais voilà, c'est un peu pour faire le panel de tout ce qui s'est passé avant nous et comment nous, on en est là. En gros, hein, très très gros. En tout cas, il faut savoir qu'il y a 20 000, 30 000, 50 000 ans, ils avaient le même cerveau que nous maintenant. Donc on peut se dire qu'ils avaient la même capacité à réfléchir et à se poser des questions. Ils n'avaient pas la même technique ou les mêmes pensées, comme on dit avec Newton, là, avec ces expériences de pensée phénoménales de gravité et de force. Que, voilà. En tout cas, ils étaient comme nous. Donc, ils ont développé plein de techniques. Et on peut commencer avec l'astronomie et ce qui nous intéresse, du coup, et les alignements de menhirs celtiques. Donc ça, on en trouve partout en Bretagne, un peu partout en Europe, hein, même ailleurs. Hein. Donc déjà, c'était une réflexion forte de calcul, d'observation, de revenir chaque année pour et commencer à élaborer un calendrier et tout ça. Donc ça, c'était déjà le début de la science, j'imagine. Après, on arrive un peu aux Sumériens qui ont développé l'écriture, commencé l'alchimie, comme tu disais, la numérotation, le zéro. Ça aussi, c'est une expérience de pensée. Se dire un chiffre n'est rien, il faut quand même le concevoir à la base. Donc,
oui, puis l'utiliser aussi dans la notation pour les dizaines, les centaines, les milliers.
Voilà, enfin, ouais.
C'est aussi intéressant, l'utilisation du zéro.
Ouais. Donc, il y en a qui ont réfléchi à cette époque et qui ont trouvé ça, ou faire des multiplications, des divisions, des racines carrées, des carrés, enfin, toutes ces choses qui nous paraissent évidentes maintenant, mais qu'il a fallu un temps incroyable pour en arriver là. Donc là, j'en passe énormément entre les Égyptiens, les Grecs, dont on a beaucoup parlé, qui ont beaucoup fait avancer la science, hein, sur tous les phénomènes naturels, entre les calculs de diamètre de la Terre, de distance Terre-Lune, Terre-Soleil. On a parlé d'Aristarque de Samos, d'Érastotène, on a parlé beaucoup, tout ça. Et c'est pareil, concevoir ça dans l'esprit humain, et c'est... Moi, je trouve ça magnifique, mais il faut le concevoir, quoi. C'est vraiment une pensée scientifique incroyable. Donc voilà, tous ces philosophes. Et là, j'ai l'impression qu'au niveau de la Grèce, on commence à faire le distinguo science, sagesse, philosophie, science. On est un peu dans le... Aristote disait, la science est subordonnée à la philo. On commence, je trouve, à réfléchir à ce que la science... quelles sont ses implications. J'imagine qu'à l'époque, c'est peut-être pas tant technique, mais surtout... mental et dans la persuasion, la politique. J'imagine pour avoir du pouvoir sur l'autre. J'imagine que c'était à ce niveau-là, surtout. Voilà, donc je voulais faire un peu ce tour-là et de voir qu'il a fallu plusieurs dizaines de milliers d'années pour arriver à tout ce qu'on sait maintenant. Et que là, ces 500 dernières années, on va dire depuis la Renaissance, donc depuis à peu près Newton, ça fait 400, 500 ans, de toute l'avancée scientifique avant Newton, on va dire, qui a pris du temps, et après Newton, donc ces 500 dernières années où il a fallu ça a fait un bond spectaculaire au niveau de toutes les sciences, quoi. Tout a explosé. Je parle même pas des 100 dernières années, mais voilà, de bien prendre conscience qu'il a fallu à l'humanité quelques dizaines de milliers d'années pour arriver là où on en est maintenant, et d'avoir une science comme on en parle, avec des revues à communauté de lecture. Est-ce que c'est dogmatique? Est-ce que ça ne l'est pas? Comment c'est vérifié? Et etc. quoi. Voilà, je voulais faire un peu un point là-dessus pour faire ce distinguo-là, de bien savoir où on en est maintenant, quoi.
Ben merci. On va faire une petite pause musicale dans cette émission. Alors, on a décidé pour la dernière de mettre un morceau de Jimi Hendrix, puisque c'est quand même le générique de l'émission, hein, depuis le départ. Et ce morceau, c'est « Are You Experienced ?»
Then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I have. Probably scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you. Hear them, but you will if you just
take hold of my hand. Oh, but are you experienced? Have you ever been experienced? Not necessarily stone, but beautiful.
Et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors, on est toujours dans cette 100e émission, émission spéciale, débat sur la science. Pierrick, Axel, Fred et Jean-Baptiste. On a fait une première partie un petit peu avant la pause musicale, on va dire les réussites de la science, son fonctionnement. Les histoires aussi de distinction entre science, technologie et les allers-retours qu'il peut y avoir entre les deux. Là, dans cette deuxième partie, on va un petit peu parler des limites de la science. Mais avant ça, je vous mentionne que, comme on l'a dit, hein, toutes les émissions sont écoutables sur le site de RDWA, donc on va bientôt passer dans les archives. Mais on se faisait la réflexion, là, hors antenne, que les tours du ciel, en fait,
commençaient les émissions.
Qui commençaient ouais. Chacune des émissions, sont toujours valables si vous les écoutez à la même date.
Non. C'est vrai ?
Et pourtant, mais oui. Puisque la Terre fait un tour autour du Soleil en un an, eh bien, tous les ans, le ciel nocturne est le même. Alors, pour les étoiles, c'est vrai. C'est pas vrai pour les planètes, par contre. Ça, les cycles sont différents, ni pour les comètes, non. Ou pour les passages d'ISS, non. Ou la Lune, tout ça, ça ne marche pas. Par contre, si vous voulez réécouter les tours du ciel des passés, vous pouvez, à condition de prendre les mêmes dates. Voilà,
c'était une petite... Semaines près, ouais. À deux semaines près, ça marche.
Oui.
Aussi, ouais.
Ouais.
Mais oui. Les pluies d'étoiles filantes marchent, par contre.
Oui,
ça c'est bon.
Ça c'est bon.
Vous pouvez les garder.
C'est vrai. Voilà, c'était une petite remarque en passant. Alors, on va continuer cette émission et on va donc parler des limites de la science. Et la première qu'on voulait mentionner, c'est pas réellement une limite, c'est plutôt une dérive. C'est ce qu'on pourrait appeler le scientisme. C'est-à-dire les gens qui ne jurent que par la science et surtout qui pensent que tout ce que la science n'a pas prouvé est faux. Alors, ça... Malheureusement, ça existe. Et les gardiens du temple, on ne sait pas trop quel temple d'ailleurs, c'est un peu eux qui l'ont inventé leur temple, mais il est très fermé, il n'a pas beaucoup d'ouverture. Mais en tout cas, ça existe ce type de mentalité et ça fait du tort. Ça fait clairement du tort à une démarche réelle de recherche. Pour moi, c'est un peu le pendant, de la même façon qu'on a dit, il y a des gens qui disent que la science est un dogme, c'est n'importe quoi, c'est une opinion. Moi, je pense que, moi, je pense autre chose. Je pense que la Terre est plate. Oui, tu peux le penser, mais la réalité est que, et l'expérience a montré que, surtout depuis qu'on a envoyé des satellites dans l'espace, que la Terre n'est pas plate. C'est bien une boule. C'est indéniable. Donc, penser le contraire, ça s'appelle de la mauvaise foi ou se voiler la face. Ou de la bêtise, hein, faut être clair. Donc, là, on est dans autre chose. Si on n'accepte pas les faits, effectivement, on ne peut pas avancer dans la connaissance. Ça, c'est une base. Et de la...
Si on n'accepte pas qu'il n'y a qu'une réalité, c'est un premier postulat qui est important.
Qu'il n'y a qu'une réalité ? Ouais. Alors, moi, je ne crois pas qu'il n'y a qu'une réalité.
Ah. donc, il pourrait y avoir trois sciences différentes.
Ah, mais non, mais il y a autant de réalités que de personnes, puisque tout est très subjectif. Mais ça, on y viendra dans la dernière partie de l'émission.
Bon, je garde ça pour plus tard.
En tout cas, oui, on vit tous dans le même univers normalement. Ouais. C'est peut-être ça, ouais. Et cet univers, il obéit à des lois qu'on n'a pas,
qui sont les mêmes pour tout le monde.
Qui sont les mêmes pour tout le monde.
Pas comme celle des humains.
Tout à fait. Alors, on parlait donc de scientisme, c'est-à-dire cette, une sorte de foi aveugle dans la science. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste, là, tu nous avais raconté là, une petite histoire, si tu voulais nous la partager. J'ai trouvé qu'elle était assez, qu'elle illustrait assez bien le propos.
Oui, tu veux...
Tu nous parlais d'une conférence à laquelle tu avais assisté.
Oui,
dans une poser des
conférence
questions.
Sur la... en astrophysique, donc, la question à la fin... une question adressée à toute la conférence, où je fais court en fin de conférence. Celle qui interrogeait le public a demandé est-ce que les gens dans la salle, donc il y avait 200 ou 300 scientifiques, chercheurs, tous dans leur domaine en astrophysique, est-ce que les scientifiques dans la salle pensent que la théorie dans laquelle on est, on va appeler ça la théorie cosmologique actuelle, est-ce qu'elle est juste ? Donc, dans la salle, quelques mains se lèvent. La deuxième question, est-ce que cette théorie, c'est la vérité absolue ? On ne devrait pas chercher d'autres chemins alternatifs ? Et là, il y a quand même 2-3 personnes qui ont levé la main dans la salle. Il faut savoir que c'était... censé être des chercheurs, c'est des chercheurs, donc il y avait quand même 1%, on va dire, s'il y avait 3 personnes sur 300. Ouais. Ce qui était marrant, et ce qui peut peut-être nous amener à la suite des développements, c'était la question, est-ce qu'on devrait chercher d'autres théories que celles dans lesquelles on développe la majeure partie de nos recherches à l'heure actuelle ? Et là, il y avait peut-être 95% de la salle qui a levé la main. Et dernière question, c'était qui, dans la salle, travaille ou fait de la recherche dans une théorie alternative ? Et là, il y a eu 3 personnes. Donc on voit un peu le problème, peut-être ça nous amène sur la suite. Donc le premier problème qu'il y a des scientistes, même parmi des chercheurs installés, ces 3 personnes, ce pourcentage. La deuxième évidence que de toute évidence, on n'a pas la théorie absolue pour l'instant. Et la troisième évidence, c'est vu la configuration de la recherche, l'octroi des financements et la construction sociale, on va dire, il y a peu de gens, 1% aussi, qui vont avoir explorer, le temps et explorer des théories alternatives. Et moi, je trouvais que se dérouler ces 3 questions finales ou 4, ça représentait tout le problème de la science.
C'est carrément très 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 clair. Merci pour cette histoire. Je trouve qu'elle illustre vraiment bien quelque chose qu'on ressent et voilà, ça montre que c'est réel. Donc effectivement, là, on était sur le scientisme. Donc ça existe. Des gens qui sont même des chercheurs, comme tu dis, installés. Enfin, des gens qui sont censés être des scientifiques, avoir cet esprit de recherche et qui en fait disent non, c'est pas la peine de chercher plus loin. Ça, c'est contraire en fait à toute la recherche, en fait, d'avoir un état d'esprit comme ça. Donc mais voilà, c'était...
Ça nous amène peut-être à quelque chose qu'on mentionnait, de différencier entre postulat, hypothèse et réalité ou fait ou preuve. C'est-à-dire que toute recherche, elle part d'un postulat pour essayer de prouver quelque chose. Et on prend des hypothèses qui, normalement, repose sur d'autres preuves, ces hypothèses-là. En tout cas, on se place dans un cadre, et tant que ce cadre est valide, tant qu'on prend l'hypothèse que dans ce cadre-là, on démontre, on reste cohérent au cadre, à ces hypothèses, eh bien, la preuve qui va être amenée à être faite sera en accord avec toute la chaîne depuis le postulat, les hypothèses et la preuve. D'accord ? Par contre, dans la science, y a énormément de postulats et d'hypothèses qui doivent être pris par essence. Sinon, on peut pas avancer. Et du coup, là, la limite est assez... Il y a une grande zone pendant laquelle on a ce qu'on appelle ce fameux faisceau de preuves qui nous amène de plus en plus à raffiner une question avant la preuve ultime qui nous dit on prendra comme juste cette théorie à moins que dans le futur, à un moment donné, on ait la preuve du contraire, c'est-à-dire qu'une des hypothèses qui a servi à construire cette théorie soit invalidée.
Ça, c'est un fonctionnement honnête, quelque part, de dire, voilà, je fais des hypothèses, je développe une théorie dans le cadre de ces hypothèses. Tant qu'effectivement, c'est cohérent avec ce que j'observe et ce qu'on connaît, pas de problème. Le jour où une observation... Par contre, c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que le jour où une observation vient démontrer que ces hypothèses ne sont pas valables, alors le chercheur, il dit, bah ok, je me suis trompé, c'est pas bon, je vais chercher autre chose. C'est là la différence avec une fermeture d'esprit type scientiste qui dit bah non, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Où là, en fait, on se retrouve avec un comportement, en tout cas un fonctionnement psychique qui est tout à fait comparable avec les gens qui ont brûlé Giordano Bruno ou d'autres. Quoi.
C'est ça, tu as prononcé le bon mot psychique ou on va dire philosophique. C'est tout à fait différent et pourtant la démarche peut sembler quasiment similaire avec le fait de vouloir... valider une hypothèse, donc on est obligé de croire un peu à quelque chose pour essayer de la valider, mais au niveau psychique ou philosophique, c'est tout à fait différent que de dire, bon, cette chose-là est juste par essence, et toutes les preuves qu'on va apporter vont juste aller dans ce sens-là, ce qui n'ira pas dans ce sens-là, ça veut dire que c'est les observations qui sont fausses. Ouais. Les chemins sont limite parallèles, mais dans deux dimensions tout à fait différentes pour moi.
Tout à fait, ouais. Ce qui revient à se voiler la face, en fait, puisque de dire, bah non, ces observations ne m'arrangent pas, donc je les mets de côté. Et ça, c'est pas possible. C'est absolument incompatible avec une véritable démarche, on va dire, scientifique de recherche.
Alors, ça nous... c'est intéressant que ce soit quand même tout le long de la construction d'une étude, qui quand même, tout est mobilisé par de l'intuition, souvent. Enfin, on parle des croyances contre la science, mais dans le processus même, l'individu qui va produire une recherche, il croit en quelque chose à la base, il a une intuition, il fait confiance à son intuition, quelque part il y croit, et il va essayer d'en faire part à tout le monde par un langage que tout le monde sera d'accord, type mathématique, mais il y a quand même à chaque fois personnellement une sorte de croyance qui est presque nécessaire. D'ailleurs, tu parlais d'Einstein, tu as évoqué vite fait Einstein tout à l'heure. Lui, il a fait des expériences de pensée, il a eu des intuitions, il s'est dit, ah, tiens, ça pourrait être ça. Il n'était pas très très bon en maths, il s'est fait aider par son ancien prof de maths pour formaliser ses intuitions. Et c'est avec ça qu'il a mis tout le monde d'accord. Mais à la base, il croyait quand même à quelque chose.
Comme tu dis, il y a une intuition, il y a une vision, ouais. En fait, moi, je trouve. Par contre, là, sur Einstein, c'est intéressant et ça m'y fait penser parce que, justement, c'est un peu la contrepartie. C'est que Einstein, il a introduit ce qu'on a appelé la constante cosmologique dans ses calculs. Et là, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que Einstein, avant Hubble, il avait dans ses calculs l'expansion de l'univers. Il l'avait. Mais en fait, il a dit... philosophiquement, il a dit, c'est pas possible.
Oui, ça me plaît pas.
Et donc, je vais introduire une constante cosmologique du chapeau qui sortait de nulle part pour avoir un univers, en fait, stable. C'est-à-dire ni en inflation, ni en déflation, rien du tout. Et ça, en fait, eh ben, même un mec comme Einstein, qui pourtant a explosé le cadre d'une façon que personne n'a fait depuis lui, eh ben, même lui, en fait, il avait ses propres limitations. Il a limité ses propres découvertes par sa philosophie. Ouais. C'est intéressant quand même aussi comme comportement.
En tout cas, moi, je pensais aussi à une période où à la première question de la conférencière, enfin dont tu parlais, où tout le monde aurait levé la main. Et on avait parlé un peu de cette époque, je crois, peut-être quand tu parlais de la catastrophe ultraviolette, et que juste avant... la communauté scientifique pensait que c'était bon, on avait tout compris.
Ouais. Mais ça, c'était la transition avec aussi le début de la mécanique quantique,
ouais,
en fait.
Ouais. Mais il y a quand même eu ce moment, et voilà, on est 150 ans après.
C'était 1880, ils pensaient qu'il y avait deux, trois petits détails, mais qu'ils avaient tout capté.
C'est bon, ouais, on avait tout compris.
Le petit nuage dans le ciel.
Alors qu'aujourd'hui, comme...
Oui, c'est vrai, c'est ça. Tout à fait. Ouais.
Et voilà, alors qu'aujourd'hui, comme nous raconte Jean-Baptiste, est-ce que vous pensez qu'on a tout expliqué? Il y en a trois qui l'avaient la main. Mais je pense qu'il y a 150 ans, il y en aurait eu 95. Quoi.
Je sais pas. Ouais, peut-être.
Donc c'est des choses qui évoluent, quoi. Enfin, qui change.
Parce que les humains, moi j'ai quand même l'impression qu'ils n'ont pas énormément changé.
Oui, mais c'est pour ça, c'est pas impossible que dans 100 ans, on en revienne à avant, on se dise bah, c'est bon, là on a tout recompris, mais cette fois c'est sûr. Et puis dans 200 ans, ah bah non, on n'avait rien compris. Enfin, je ne parle pas de cycle régulier, mais ça peut être quelque chose comme ça aussi. Pourquoi pas?
En tout cas, c'est intéressant, voilà, plus d'un titre, ce que tu as raconté, Jean-Baptiste. Ça va effectivement nous amener à la suite, là, quand tu parlais de ces trois scientifiques à la fin, en fait, il n'y en avait que trois qui travaillaient sur des théories alternatives. On va en reparler. Mais avant ça, on a évoqué cette idée de postulat, et j'avais envie de m'arrêter un petit peu dessus. Effectivement, dans la science, en particulier en physique et même en mathématiques, en réalité, il y a des postulats. Un postulat, c'est quelque chose, on dit, voilà, ça, on va poser comme une vérité, parce qu'on observe que c'est vrai, on n'a jamais pu le mettre en défaut, mais on n'arrive pas à le prouver. C'est ça, un postulat. C'est un truc, je ne suis pas capable de démontrer que c'est vrai, mais j'ai jamais réussi à prouver que c'était faux. Et donc, je vais me baser dessus pour construire d'autres choses. Et en particulier, la mécanique quantique, il y a des postulats qui sont fondamentaux, qui ne sont pas démontrés, qui fonctionnent. Est-ce qu'un jour, on arrivera à les mettre en défaut? À ce moment-là, il faudra tout revoir. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'était juste pour mentionner cette place du postulat, en particulier en physique, qui est en fait vraiment important, qui a une vraie place dans la théorie, mais c'est une place qui est quelque part honnête. C'est-à-dire, je dis, voilà, ça, je dis que c'est vrai parce que je n'ai pas pu prouver que c'était faux et je vois que c'est vrai tout le temps. Mais je ne dis pas que c'est forcément toujours vrai. Mais tant que je ne l'ai pas mis en défaut, je considère que c'est vrai. C'est ça, un postulat.
Et ouais, moi, ça me fait dire que c'est peut-être un peu, quelque part, limitant parce que, du coup, tu peux partir un peu dans tous les sens.
C'est pas en tous les sens, c'est-à-dire que tu l'as jamais mis en défaut quand même.
Oui, mais voilà, mais du coup, ça ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes. Peut-être, hein, tu vois, j'imagine. Et que du coup, tu pars en cosmologie, par exemple, tu peux avoir plein de théories là-dessus, les cordes ou plein de choses qui partent.
Attention,
un peu...
le truc, c'est qu'il y a une différence entre un truc que tu supposes et un truc que tu peux quand même tester expérimentalement. Et que tu n'arrives pas à mettre en défaut expérimentalement. C'est ça dont je parle.
Oui, oui.
Ça va un peu plus loin. Ce n'est pas juste « je crois que ça, c'est vrai ». Non, c'est des trucs qui sont expérimentaux aussi. Et que tu n'arrives pas, par l'expérience, à démonter. Voilà. Ce n'est pas juste « tant qu'on ne me dit pas que c'est faux, oui, on vit dans un univers à 93 dimensions. Tant qu'on ne me dit pas que c'est faux, je le considère. » Oui. Non, c'est pas ça.
Ça sera jamais en plus.
C'est pas de cette nature-là, là, les postulats. Oui. Il y a quand même une vérification expérimentale ou pas, qui est là, quoi. Parce qu'il y a toute une théorie qui en découle dans le cas de la mécanique quantique et des applications
dans
qui sont multiples, dont les lasers, dont plein d'autres, et qui marchent, quoi. Donc et aussi des expériences de laboratoire qui fonctionnent aussi. Tu vois, c'est pas juste une vue de l'esprit, quoi.
D'accord. Ok.
Bon, en tout cas, c'était pour mentionner ça. Alors, on va laisser un peu le scientisme de côté, parce que, au fond, à part dire qu'on est dans une grande fermeture d'esprit, c'est pas extrêmement intéressant.
On parle pas de... Est-ce que ça en fait partie, le... Attends, c'est quoi le mot? Le cornucopianisme?
C'est quoi?
Le cornucopianisme, c'est... Pour moi, ça se rapproche du scientisme. C'est ceux qui pensent que la science va nous sauver. Plutôt. Alors ça, on l'entend beaucoup
ça,
avec...
Ça, c'est une sorte
avec...
de philosophie, plutôt, ça.
C'est comment tu dis comment
ça, le cornucopianisme, ça vient de la corne d'abondance, en fait. C'est pour ça, ce mot. Et c'est pour dire, on va trouver la corne d'abondance, en fait. Ah, mais de Sébastien, non. non, ça vient de cette idée qu'on va inventer la corne d'abondance et qu'on pourra manger gratuitement pour toujours. C'est un peu ça, et on l'entend beaucoup avec les discours anti-écolo,
pour dire la science va nous sauver de toute façon.
Dire, oui, c'est pas grave, on va trouver un truc, on va inventer une machine qui décarbonne
l'atmosphère. On va trouver une planète B aussi.
Ou on va trouver une planète B. Enfin voilà, ça va aussi là-dedans. L'idée que la science peut nous sauver, en épistémologie, on appelle ça comme ça, et le cornucopianisme. Ouais. Pour moi, ça fait partie un peu du scientisme. Quoi.
Comme le transhumanisme ou ces choses un peu plus.
Je sais pas si ça va dans le même truc, puisque ça, c'est vraiment de l'amélioration, c'est pas pour sauver. on pourrait, personne ne dit qu'on ne pourra pas vivre tel qu'on est.
L'idée du transhumanisme, voilà, c'est ça. L'idée du transhumanisme, c'est quelque part derrière, il y a l'idée de l'immortalité.
Hein. Ah oui, okay.
C'est un peu ça aussi.
Oui, okay, se transformer en machine.
Il y a un, la phase cyberpunk où tu as un bras argenté qui en plus te donne la force de Hulk, tu vois, et puis il y a la phase 2 où tu es immortel. Enfin, un peu ça le transhumanisme quand même.
Plutôt, oui, d'accord.
Mais là, Axel parlait du coup de manière générale, même la planète, même les animaux. On aurait du technosolutionnalisme.
Ouais, c'est ça. Oui, voilà, c'est l'autre mot.
Technosolution.
Ouais, voilà. Alors pour moi, c'est un peu différent du scientiste parce que, enfin, ce dont je voulais parler, c'était plutôt de cet état d'esprit de fermeture, de dire voilà, tout ce que la science n'a pas validé, c'est pas vrai. Tout ça, ça n'existe pas. Il y a que ce qui est là qui est vrai. Vous dites que de la merde, etc. Voilà, ce type de comportement. Qui est une dérive, hein. C'est pas une limite intrinsèque à la science, c'est une dérive des gens, de certaines personnes minoritaires qui pratiquent la science, mais qui font du mal. Ouais. Qui font du mal parce que souvent, ces gens, en fait, bizarrement, et ça va nous amener à la suite, peuvent se retrouver dans des positions influentes. Ouais. Et du coup, faire du mal, bloquer, en fait, bloquer la recherche, etc.
Donc, est-ce qu'on a encore des choses à dire peut-être sur la limite de la science ou sinon j'avais quelque chose
sur la limite de la science, on en a plein à dire. Mais sur celle-là, en tout cas, j'ai plus rien à dire.
Parce que moi, je pensais, quand tu me parles de limite de la science, au fonctionnement de la science. Tu as parlé tout à l'heure des revues à comité de lecture, qui est déjà un terme que je pense le grand public connaît que vaguement.
Ne connaît pas.
Ou pas. Et alors derrière, le fonctionnement des revues à comité de lecture, c'est quelque chose d'assez surprenant. Et je sais, de par mes pouvoirs divinatoires, que tu vas nous parler après du capitalisme, des méfaits du capitalisme
j'y viens.
Science.
C'est maintenant.
Et ben voilà, alors ça va faire une bonne introduction. Puisque ces revues à comité de lecture, qui sont donc le seul endroit où on peut produire de la science, où on va publier ses recherches, eh bien... Donc on prend un scientifique qui travaille, qui est en général en très grande majorité payé par des fonds publics. En France, typiquement le CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique Supérieure, je ne sais plus, l'US. Bon.
Scientifique,
oui, j'ai eu un doute. Donc le CNRS paye des scientifiques qui vont travailler sur leur sujet, et à la fin, ils vont devoir publier ça pour pouvoir... être lu et par d'autres, inspirer d'autres et faire avancer tout ça, le chemin public. Sauf que pour être publié dans une revue à comité de lecture, et ben il faut payer. Alors, ce n'est pas le scientifique lui-même qui va payer, ça va être son employeur, son CNRS ou son bureau, enfin, peu importe l'échelle. Mais en tout cas, c'est des fonds qui sont publics, donc, qui vont partir dans des poches de privés. Pour ça, ensuite, la recherche, le papier, va devoir être relu. Donc, tu parlais le comité de lecture, ceux qui vont vérifier. Sauf que l'éditeur du journal scientifique, lui, il n'y connaît rien en astrophysique ou en biologie ou peut-être en une des domaines, mais pas toutes. Enfin, il ne peut pas, c'est normal. Et donc, il va demander à d'autres de le faire. Il va dire, ah bah tiens, toi qui connais bien ce sujet, est-ce que tu peux me vérifier ça? Et ça, c'est gratuit. Ça, c'est du temps que tu vas passer gratuitement pour faire ça. Et aussi, après, il y a tout un système de réseautage pour te faire bien voir. Tu dis, ah ben voilà, lui, il relit souvent les articles. Donc, s'il a un article à passer, ça va être plus simple. Bon, voilà. Donc, ça, c'est... Voilà, à partir de là, c'est relu. On va dire que c'est validé, c'est publié. Et ensuite, donc, le but, comme je disais, c'est que d'autres personnes de ce domaine vont avoir envie de lire ça pour avancer eux-mêmes et pour contribuer à leurs recherches. Et pour lire ça, et ben devinez quoi, c'est payant. Donc là, c'est le même organe de recherche, le CNRS, qui va repayer pour avoir accès. Alors, je parle du CNRS, mais ça peut être une université aussi, si c'est des étudiants, des thésards. Ben ils vont devoir payer le journal pour avoir accès à l'article.
Que son collègue d'à côté vient de publier.
Oui, en gros, c'est ça. Alors, voilà un peu le fonctionnement aujourd'hui. Ultra-capitaliste et qui est assez décrié depuis quelques années maintenant, et c'est tant mieux. Et peut-être que Jean-Baptiste, tu as envie de nous parler brièvement de cette actu. Oui. Tu nous parlais justement du CNRS qui essaye de mettre un peu de distance avec ces journaux.
Oui, là, tu prenais comme exemple le CNRS comme institut de recherche. Oui. Après, voilà.
Il y en a plein.
Il y en a plein d'autres, même en France, des instituts publics. Mais oui, ce système est un peu généralisé. Et il va même plus loin, c'est-à-dire qu'ensuite, il y a des instituts, des compagnies privées qui vont regrouper les journaux.
Une sorte de holding.
Ce qui s'est développé ces dernières années, c'est surtout en plus une notation des chercheurs là-dessus. Donc, c'est-à-dire que les journaux ou les groupes auxquels ces journaux appartiennent vont noter combien de publications a fait tel chercheur. Faire éventuellement sa pub ou non, la pub du chercheur via un réseautage, via les réseaux sociaux ou via des canaux un peu plus spécialistes à la recherche, et puis ensuite inventer ou quoi, mettre en place en tout cas un index pour noter, évaluer chaque chercheur. Et puis ça, bah, finalement, ça s'est plu au pouvoir public, d'une manière générale, pas juste en France, dire bon, bah, finalement... Si on prend quelqu'un qui donne de l'argent à la recherche, quelqu'un dans l'administration, mais qui ne connaît pas la recherche, mais qui doit décider combien de fonds il doit allouer à quel chercheur ou quel institut, eh ben, il est tout content d'avoir un indice donné par on ne sait pas qui, un gros journal, pour lui dire bah, « Tiens, ce chercheur, il travaille mieux que celui-là ».
Ça, c'est uniquement basé donc, sur le nombre de publications.
Ça, c'est basé sur le critère qu'a pu retenir le journal ou le groupe qui détient le journal.
Ah oui, c'est, chacun.
Donc, depuis 10 ou 15 ans, depuis que y a eu une espèce de mondialisation de ces papiers-là, il y a eu cette course à, différents index. Un des index qui était bien connu pour les chercheurs, c'était le H-index. Il y en a d'autres qui faisaient un espèce de ratio entre le nombre de publications, pur et simple, et le nombre de citations.
Le nombre de fois où ton article a été utilisé.
Sachant que ce sont des choses pas du tout cohérentes et qui n'indiquent pas la qualité d'un chercheur, puisque un chercheur dans un domaine, par exemple, d'observation, qui va avoir un très gros télescope, qui va avoir accès au milieu d'un télescope et découvrir une exoplanète chaque nuit, va avoir des milliers de citations. Il aura fait du très très bon travail, mais il aura des dizaines de milliers de citations, simplement finalement parce que c'est le premier utilisateur des données. C'est lui qui a le télescope. Le chercheur qui, derrière, va faire une théorie, par exemple, pour essayer de relier la quantité d'exoplanètes par rapport à la couleur de son étoile, ou bref, je parle d'un domaine qui est un peu extérieur au mien des exoplanètes, mais à bon escient, parce que justement, je me mets au même niveau que vous, et va dire, moi j'ai passé 3 ans à comprendre finement la théorie du nombre d'exoplanètes et de leur période en fonction de la couleur de l'étoile. C'est un gros papier théorique qui va avoir de l'influence pour le développement des 50 prochaines années. Et finalement, il a mis 3 ans, alors que l'autre a des publications tous les 3 jours, parce que tous les 3 jours, il découvre une exoplanète. Et il va avoir peu de citations, en tout cas peu rapidement. Il va avoir un nombre de citations qui va s'élever très lentement. Ouais. Et ça ne veut pas dire que l'un est moins bon que l'autre ou a fait du moins bon travail. Mais il se trouve que l'un aura 30 publications à l'année. J'exagère, mais 30 publications à l'année avec 1000 citations à l'année. Et l'autre aura 0,5 publications à l'année avec 10 citations. Et donc les grands
revues,
on revient aux grands groupes, aux grandes revues qui ont fait ces notations un peu aveugles. Et il se trouvait qu'après, les puissances publiques ou les gros organismes type CNRS vont se baser là-dessus pour allouer leurs fonds et pour aussi dans l'avancement des chercheurs. Une bonne nouvelle, du coup, c'est que...
Je pense à quelque chose, c'est que ça serait marrant d'appliquer leurs notations... rétroactivement, mais juste pour donner l'exemple, par exemple Einstein, il a pas fait 50 papiers, peut-être qu'il aurait un H-index pourri et que tu te dis c'est qui soit Albert Einstein qui a un H-index tout nul, on va pas lui donner des sous, tu vois.
On en a comme ça, il y en a plein qui se sont amusés à faire ça. Je peux pas reciter de nom, mais notamment quelqu'un qui était à deux doigts d'être carrément viré à l'époque, avant de ses index, à être viré du CNRS, parce que quand même, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas fait de publication, et qui ensuite a sorti la publication, et il est devenu prix Nobel.
Oui, oui. Ah,
et oui. Donc, et c'est juste ça, qu'il fallait le temps, c'est la particularité de la recherche, et qu'il faut le temps de la maturité, le temps de valider toutes ces hypothèses, et le temps de la réflexion pour certains domaines, dans lesquels bah, il est méritant de chercher une théorie alternative, et sur laquelle bah, on ne se repose pas sur, comme, comme on en parlait, sur les épaules des géants, sur, sur 5 siècles de recherche. Pour explorer des nouveaux domaines, eh ben, ça prend beaucoup de temps, puisqu'on ne se repose pas sur à la fois la technologie et la recherche précédente.
Et donc, la bonne nouvelle.
Ce que je décris là est décrié depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Et les pouvoirs publics, dont, si on reparle encore du CNRS, ont commencé à prendre des décisions pour agir contre ça, bien qu'ils. Ils se sont reposés là-dessus, sur ce genre d'index, depuis 10, 15, 20 ans. Et ils ont eux-mêmes réussi à se dire bah non, on va essayer de se passer de ça, sachant que c'est très difficile. Parce que si un grand organisme se passe de ça, il va être tout à fait décrié dans la communauté internationale.
Et moins visible.
On peut prendre la même chose que si un gros journal se sépare en disant tiens, je ne vais plus publier sur tel réseau social. Moi je le mets un peu comme sur ce débat qu'il y avait sur X et Twitter quel journal veulent ne plus publier parce qu'ils sont contre les propos d'Elon Musk. Mais le CNRS se met sur cette voie-là, a essayé de se séparer de ces grands groupes, donc a arrêté ce chantage de à la fois leur payer pour racheter des choses que leurs propres chercheurs ont publiées. Et à la place de financer ces journaux par le biais de l'achat de leurs publications, ils se sont dit que ce financement, ils vont le mettre sur au développement de nouvelles, de librairies ouvertes, donc à de la science qui est tout à fait ouverte. Et là, au 1er janvier 2026, ils vont arrêter leur financement au groupe qui s'appelle Web of Science et qui était très très puissant, qui faisait ce H-index, sachant qu'il y a un an ou un an et demi, ils avaient arrêté. Leur participation au groupe, leur collaboration avec le groupe Scopus qui faisait Elsevier, le plus gros éditeur, un des plus gros éditeurs.
Ouais. C'est plutôt encourageant l'idée que le CNRS en fait se met un petit peu à contre-pied de cette évolution-là. Ça nous amène en fait, on l'a dit un petit peu avant, mais à cette idée en fait de rentabilité de la recherche.
Alors je peux finir juste avec une petite chose pour contourner un peu ce système sans attendre que les grands groupes de recherche se désabonnent, parce que c'est un peu ça, c'est un système d'abonnement aux journaux. Il y a 3 choses. La première, c'est de contacter directement l'auteur. C'est quelque chose qui peut se faire, parce que souvent, on trouve quand même un extrait des articles scientifiques quand on cherche quelque chose sur un sujet. Et on va trouver juste un extrait et ensuite il faut payer pour avoir accès à tout l'article. Mais on a le nom des auteurs. Et en partant du nom, c'est en général pas trop dur de trouver leur mail. Tu leur écris un mail, tu dis, je suis intéressé par votre article qui parle de ça. Et ils te l'envoient gratuitement, ils sont contents d'être lus. Voilà, c'est la première chose. Après, il y a une plateforme qui a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques années qui s'appelle C-Hub, un site internet, une sorte de moteur de recherche, C-Hub, où tu cherches le papier qui t'intéresse et eux, ils te le donnent. Alors c'est un peu craqué, c'est un peu piraté, c'est une voie détournée
et
illégale.
Illégal.
Mais voilà, il y a beaucoup de papiers qui sont disponibles comme ça sur C-Hub. Et l'autre, C-Hub, je ne l'ai pas trop utilisé, moi j'en utilise un autre qui s'appelle Unpaywall, qui est une extension pour les navigateurs. Je pense que ça marche sur tous les grands navigateurs d'aujourd'hui. Unpaywall. Et quand je tombe justement sur un extrait d'un article scientifique, j'ai un petit bouton qui apparaît en plus sur le côté de l'écran pour me dire, si tu cliques là, tu as accès à tout l'article. Et pareil, c'est un truc piraté, mais pour avoir accès au papier directement. Voilà, c'est des petites astuces comme ça, si ça vous intéresse de lire de la science, parce que c'est intéressant de lire de la science. Je ne sais pas si vous le faites. Enfin, Jean-Baptiste, oui. Mais
c'est intéressant à condition d'arriver d'avoir les outils pour capter ce qui est dit, parce que quand même, quand tu lis un papier d'astrophysicien, en termes de mathématiques, en termes de concepts, en termes de langage, franchement, à moins d'avoir un peu des billes, c'est compliqué de capter quoi que ce soit, en fait. Hein. C'est ouais, pas de la vulgarisation.
Si c'est dans un domaine qui t'intéresse, non, c'est pas dans la vulgarisation. Si c'est un domaine qui t'intéresse, je pense que ça vaut le coup. Souvent,
tu peux toujours capter quelque chose.
Oui, voilà.
Mais il faut quand même être clair que c'est pas de prime abord évident, quoi.
Non, mais c'est que j'aime bien revenir à la source. Quand je tombe sur un article de presse grand public qui parle de quelque chose, je dis attends, je vais aller voir le papier d'abord pour voir ce que eux ils disent, que les chercheurs disent, avant de voir l'interprétation des journalistes qui souvent, je dis pas qu'ils font mal leur métier, mais souvent je trouve ça plus clair par le papier que par la presse.
Oui. Après, on a parlé, j'ai beaucoup parlé sur. Contre ces gros groupes d'édition, on va dire. Tu as montré aussi le biais, le fait que les chercheurs avaient l'impression de faire tout le travail. On produisait, on corrigeait, et puis on réachetait. Mais ce n'est pas non plus aussi simple que ça, puisque les éditeurs nous donnaient ce gage de lecture à l'aveugle, comme on appelle. C'est-à-dire qu'on avait, ça donnait un peu un saut de vérification par les pairs. Justement, c'est-à-dire qu'on envoyait à quelqu'un de neutre, on va dire. Ce quelqu'un de neutre redistribuait à un autre chercheur dont on n'avait pas la connaissance. Et ce chercheur-là faisait son travail. L'éditeur regardait qu'il avait bien fait son travail. Et ça permet cette chose en double aveugle. Oui. J'ai pensé à ça quand tu parles de choses piratées ou de... Parce qu'il y a aussi toute une mouvance dans les chercheurs de dire, finalement, j'ai juste à me passer ça.
C'est vrai.
À me passer de ça, nous, on a un site collaboratif ouvert, qu'on appelle ça Archive. Et on peut mettre, n'importe quel chercheur peut mettre ses papiers là-dessus sans demander l'avis à personne.
Oui.
Et cette plateforme-là pourrait être tout à fait submergée par des inventions ou des articles de tout le monde, même vous, d'accord ?
Ah oui, c'est sûr.
Ou d'intelligence artificielle.
on y vient.
Non, mais c'est sûr que c'est pas complètement inutile.
Donc voilà,
ça vient pas de nulle part.
C'est pour ça qu'il faut mettre quelques. Il y a quand même du travail derrière pour mettre quelque chose en place.
Ouais, c'est vrai.
D'être indépendant au niveau notation, de pas être noté par ces choses stupides. Je sais pas comment ça a pu se mettre en place. De dire, de faire un ratio entre le nombre de citations, le nombre de papiers. De ne pas se faire juger par des gens qui sont extérieurs. Mais ça nécessite plus que simplement dire « Bon, allez, on met tout en libre accès. » Et puis finalement, plus rien n'est vérifié, plus rien n'est fiable. Et là, les gens qui sont contre la science, qui ne croient pas à la science, vont avoir toutes les billes en main pour dire « Ah, vous voyez, ils font vraiment n'importe quoi. »
Oui, mais on pourrait imaginer... Dans vue à comité de lecture géré par quelque chose de public, que ce soit pas dans le domaine du privé. Quoi.
Voilà,
c'est plutôt ça mon idée. Oui, c'est sûr
ça me paraît fou qu'il n'y ait pas un organisme en France qui s'occupe de ça intra-français.
Voilà, donc
ça me paraît dingue.
Il
ouais.
y a des éditeurs au niveau universitaire. Il y a beaucoup. Tu as peut-être déjà entendu parler des journaux de la Sorbonne ou des choses comme ça. Ou même des éditions du CNRS, d'accord ? Mais ils n'ont pas une telle audience, ils n'ont pas non plus une telle diversité de domaines pour couvrir l'intégralité des domaines. En astrophysique, on a une revue qui s'appelle Astronomie et Astrophysique, qui est financée en majeure partie par des organismes nationaux publics. Donc ce journal-là, finalement... Le résultat est le même, mais par derrière, il n'y a pas ce genre de grand groupe. Donc, ça serait bien qu'on se tourne vers une majorité de journaux comme ça, toutes sciences confondues.
Ça aussi, c'est limite de passer que par l'État. C'est aussi...
Voilà.
Ouais. Alors, en tout cas, en tout cas, ce qu'on voit bien se dessiner, c'est cette pression de la rentabilité, en fait, sur la recherche. Ouais. Donc, ce soit une rentabilité. Là, on ne parlait pas de rentabilité financière, on parlait de rentabilité de papier, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'un chercheur doit... donc, on connaît bien ce biais-là. Ça fait longtemps que ça existe. Où, en fait, un chercheur doit publier pour être lu et donc pour être connu. Et le fait d'être publié va lui permettre, en fait, dans le cas de l'astrophysique, en fait, d'avoir ce qu'on appelle du temps de télescope, hein, tu en parlais, c'est-à-dire d'avoir accès à un instrument international pour le dédier pendant quelques heures ou quelques jours à ses propres observations, qu'il va pouvoir exploiter évidemment en priorité et donc avoir des données fraîches pour alimenter sa recherche et donc derrière publier en premier, etc. Donc il y a une espèce de cercle vertueux ou vicieux selon dans quelle logique on est, mais qui fait qu'effectivement, quelqu'un qui publie beaucoup, qui a du temps de télescope, va pouvoir bien publier et en fait va prendre toute la lumière, quelque part, sans faire de jeu de mots télescopique. Mais c'est effectivement au détriment de... ça peut être au détriment, pas forcément, mais ça peut, d'effectivement d'une science qui peut demander de la maturation, comme tu parlais de quelqu'un qui n'a pas publié pendant 10 ans et qui derrière trouve un prix Nobel. En fait, on ne peut pas... cette logique mercantile et rentabiliste, en fait, elle ne fonctionne pas dans la recherche fondamentale. Ça peut fonctionner sur de la technologie, sur des choses comme ça, et encore fonctionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire apporter de l'argent, donc ce n'est pas forcément un intérêt majeur en termes de science, mais en tout cas, il y a une pression sur les chercheurs pour effectivement publier, faire du bruit autour de soi-même, en fait. Et ça, c'est très, très nocif. Et c'est effectivement là, donc, voilà, on est dedans depuis un moment, mais cette grande, grande limite, en fait, qu'a la science actuellement, c'est pas une limite intrinsèque, c'est une limite de nos sociétés, en fait. Qui génère cette pression sur la science et qui du coup en fait l'entrave en réalité, puisque comme par exemple tout à l'heure Jean-Baptiste tu parlais de cette histoire, combien parmi vous travaillent sur des théories alternatives? Il y en a 1%. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'argent pour les théories alternatives, ça n'intéresse personne en fait. Donc en fait, il y a tout ce qu'on appelle, alors c'est un terme anglo-saxon, mais la « undone science », la science non faite, la science qu'on ne fait pas. On pourrait la faire, mais il n'y a pas l'argent pour la faire, donc on ne la fait pas. Et donc ça, c'est un biais qui est énorme, parce que ça veut dire que tout ce qui n'est pas rentable ne va pas être financé. Alors c'est un peu exagéré, mais c'est une énorme tendance. Quand on parle d'astrophysique, c'est évident qu'on est dans un domaine un peu particulier, parce qu'en astrophysique, il n'y a pas de rentabilité. En fait, l'astrophysique, ça ne rapporte pas d'argent. Personne ne va gagner d'argent s'il comprend mieux la structure des super-amas galactiques. Ça, c'est clair. Par contre, en technologie, en ingénierie, là, il y a de l'argent à faire. Là, il y a des projets qui sont financés, etc. Mais il y a plein de choses qu'on ne cherche pas parce que, on ne donne pas les moyens de faire une recherche qui ne rapporte rien. Alors, c'est quand même l'idée de base du CNRS. Justement, tu parlais des États, des limites des États, mais en même temps, quelque part, la qualité de la recherche étatique, c'est justement que normalement, elle ne soumet pas ses chercheurs à une obligation de résultat. Mmh.
Mais si on regarde un principe même plus large, à partir du moment où tu fais de la recherche, l'idée, c'est que tu recherches donc quelque chose que tu ne connais pas. Donc, je dis une évidence, mais du coup, tu ne sais pas l'ampleur de la découverte qui va être faite. Et surtout, comme tu ne sais pas exactement où cette recherche va t'amener, tu ne sais pas les outils que tu vas être amené à développer pour arriver à cette recherche. Il a été prouvé au niveau historique que toutes les grandes civilisations qui ont commencé à arrêter ce genre de temps libre, on va dire, de recherche fondamentale, de recherche qui ne correspondait pas à une retombée immédiate d'argent, ces recherches, ces sociétés, ces civilisations ont périclité très peu de temps après. Le début, les premiers signes qu'une civilisation allait péricliter, c'était qu'on coupait les choses qui rapportaient plus. La recherche, l'art après. La recherche fondamentale, la culture, avant. Ouais.
C'est clair. Ouais, tout à fait. Quand tu dis, tu vois, Jean-Baptiste, qu'une société qui arrête sa recherche périclite, je trouve que ça... Bah, ce sera un petit peu le mot de la fin de cette émission, parce que ça me semble très juste. Et effectivement, ce n'est pas forcément la direction que prennent nos sociétés actuellement. Donc, à méditer. En tout cas, bon, il y avait plein d'autres choses dont on avait envie de vous parler encore, mais le temps va nous manquer.
En fait, on va faire une 101e, et une 102e, et une 103e peut-être.
Donc on va s'arrêter là. On espère que ce débat vous a intéressé. Nous, en tout cas, on avait quelques pistes, et puis on s'est aussi un peu laissé porter par la discussion, et on a apprécié le moment. Alors, c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite, puisque c'est la dernière ?
Oui. Que va devenir l'Astro Club du Diwa qui produit cette émission ?
Alors, l'Astro Club du Diwa, vous l'avez déjà vu à l'œuvre à Marignac, par exemple, et puis ailleurs.
Sur la place de l'église pour On the Moon Again ?
Tout à fait. Ouais. Ça, d'ailleurs, voilà. Donc, l'Astro Club du Diwa, lui, il va continuer un petit peu ses activités. On n'a pas dit notre dernier mot, même si l'émission s'arrête, elle. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Vous nous retrouverez dans les archives, dans les oubliettes de l'histoire radiophonique. Et nous, en fait, ben, on va continuer à organiser ponctuellement des petites soirées astronomie pour vous inviter à venir observer le ciel avec nous. Est-ce que ça va se passer à Marignac ? Est-ce que ça va se passer ailleurs ? On va en discuter. En tout cas, on va vous proposer probablement des choses. On avait aussi dans les... Bon, alors ça, c'est un petit peu un projet sur le côté, mais quand même, dont on avait envie de réaliser, c'est de faire des espèces de soirées techno, en fait, à tendance astronomie. Ça, vous verrez si vous voyez apparaître ça dans les affiches sur les murs du Diwa. Et puis éventuellement aussi, on avait cette idée de un peu en mode astro club, hein, club d'astro, de faire des soirées d'observation entre nous, puisque ça on fait ponctuellement, mais voilà, en petit comité, c'est on amène nos propres télescopes, on observe, et puis éventuellement s'il y a des gens qui ont envie de venir. Voilà, donc tout ça peut-être vous le verrez, ou vous le verrez sur vos téléphones, vous le verrez sur les affiches. Dans la ville.
Vous l'entendrez dans le dire en direct ou dans le bip sonore sur Radio Diwa. Enfin bon, on fera de notre mieux pour vous tenir au courant.
En tout cas, sachez que l'Astro Club du Diwa n'a pas dit son dernier mot.
Ouais.
Voilà. Eh bien, c'est la fin de... Ah oui, non. Il y a quand même Cosmodyssée dont on voulait parler, puisque bon, on n'en a pas trop parlé, mais certains d'entre vous le savent. Axel, lui, il a Cosmodyssée. C'est sa structure, hein, et c'est pas la même chose que l'Astro Club du Diwa, parce que Cosmodyssée, en fait, Axel, c'est son métier. Il est montreur d'étoiles, professionnel.
Ah oui.
Et Cosmodyssée, c'est sa structure. Donc, il y a forcément plein de gens parmi vous qui ont reçu Axel chez eux pour, en groupe, avoir une soirée astro privée.
Ouais, qui m'ont vu à l'œuvre, même des fois dans des choses publiques comme le jour de la nuit organisé par la mairie.
Tu as aussi travaillé beaucoup en collaboration avec la mairie, tout à fait.
Ouais, ouais. Oui, mais ça, c'est toujours d'actualité. Alors, ce sera peut-être plus beaucoup moi, mais peut-être Pierrick, peut-être Rémi aussi ponctuellement, qui vont continuer cette activité, donc un peu d'astronomie à la demande, on pourrait dire. D'astronomie. Un peu à la légère aussi, c'est moins impliquant, c'est juste, voilà, on se met une soirée dans l'astro, on se laisse guider sous le ciel et on observe des belles choses, on entend, j'espère, des belles choses. Ça dépend plus de moi, autant voir des belles choses. Bon,
ça dépend de toi aussi.
Elles sont là, oui, mais elles sont là.
Il faut arriver à les pointer quand même.
mais oui, ça sera toujours possible. Et ça, toutes les infos sont sur le site cosmodyssée.fr. Cosmodyssée avec des Y.
Voilà, c'est dit. Donc l'Astro Club du Diwa, Cosmodyssée, l'astronomie n'est pas morte autour de Di.
On y croit encore.
On va continuer à faire des choses. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Nous, on a pris vraiment du plaisir à travers ces années à cheminer dans l'astronomie avec vous, au micro, à Air Diwa.
On a appris plein de choses. Pour vous, entre nous aussi, on s'est appris des choses.
On s'est appris des choses, et je crois que moi, s'il y a un concept que je garderai de tout ce qu'on a raconté, c'est un peu l'idée de, de géographie étendue. Cette idée de regarder que, voilà, au final, l'astronomie, c'est de la géographie. C'est ce qu'il y a autour de nous, juste un peu plus loin, voire beaucoup plus loin. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de belles observations et à bientôt autour d'un télescope.
Ah ouais. Donc, continuez à observer le ciel, avec ou sans nous, c'est important. Et puis c'est le moment, parce qu'avant qu'il y ait plus de satellites que d'étoiles ou quoi que ce soit d'autre, profitez du ciel tant que vous le pouvez.
Ouais, hein, levez les yeux, un peu de poésie dans ce monde de brut. Regardez les étoiles, ça fait du bien.
Carrément. Merci Jean-Baptiste d'être venu nous voir pour cette 100e.
Merci beaucoup.
Merci à vous, c'était un plaisir, pour ça que je suis revenu.
Cool. Merci à tous les invités qu'on a reçus, il y en a une bonne dizaine, vingtaine peut-être.
Ouais. Tout à fait, une bonne dizaine, oui. Ouais.
Depuis toutes ces émissions.
Merci Ardiwa. Hein,
merci Ardiwa.
De nous avoir laissé la parole.
Ah ouais, ils sont forts.
Putain, ouais.
Et merci à Elon Musk, parce qu'on en a raconté des saletés sur lui.
Avec le Starship, il peut occuper un moment. Hein.
Ouais. Bon, voilà, puis surtout, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés.
Ouais.
Et qui nous écouteront maintenant dans les archives, comme tu disais, avec un Z sur le site de la radio.
Bon dimanche.
Ouais, bon dimanche.
Bon dimanche.
Ciao.